Alors, Romains chapitre 1, ce matin. Romains chapitre 1, vous savez, hier soir, certains ont fêté cette fête qu'on appelle Halloween. Mauvaise influence qui vient en partie des États-Unis. Malheureusement, beaucoup de bonnes choses sont sorties des États-Unis, mais en voilà une qu'ils auraient pu garder. Et donc on célèbre en fait la mort. Et puis aujourd'hui, on parle de ce jour, de un peu cette fête, la Toussaint, n'est-ce pas? On met un peu l'accent sur ce qu'on appelle les saints. L'Église catholique a sa conception de cela, et je ne sais pas si vous avez jamais vraiment étudié le processus dans l'Église catholique, comment on devient. Comment quelqu'un est donné ce titre saint, c'est tout un processus assez long, avec des règles mises en place par des hommes, et voilà, au bout d'un certain temps, après tant d'années et tant de vérifications, on va dire, voilà, tel ou tel homme, telle ou telle femme, on va le prononcer saint, une sainte. Et en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, le monde pense d'une façon, le monde va mettre l'accent, sur le côté obscur, sur la mort, le monde aura une vue faussée, un peu de ce qu'on appelle la sainteté, mais la Bible, il est bien de se rappeler que ce que dit la Bible, et Romains chapitre 1, dans ces quelques premiers versets, Paul écrit à cette église à Rome, ce groupe de chrétiens. Et permettez-moi de vous lire les sept premiers versets. Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'à 7. On connaît le verset 16 tellement, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement et puis le grec. Mais il y a tout un ensemble de versets qui précèdent cela, ce qui permet à Paul de dire le verset 16. Donc ce matin, verset 1 jusqu'au verset 7, suivez avec moi, je vais lire ces versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants que nous passons dans ta parole. Nous savons que cette parole est puissante. Et Seigneur, que tu touches notre cœur, que tu opères le changement et la transformation que tu veux dans notre vie, que nous ne fassions pas obstacle, que notre cœur soit réceptif à ce que tu as pour nous et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors ici, dans ces versets, Paul fait une courte présentation de ce qu'est un saint, bibliquement, un saint selon Dieu. Et en fait, vous voyez le verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et peut-être dans votre version, vous avez soit un tiré ou c'est entre guillemets, du verset 2 jusqu'au verset 6. Parce qu'en fait, Paul, il fait une parenthèse. C'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Et j'imagine l'apôtre Paul comme quelqu'un qui avait des pensées qui partaient dans toutes les directions. On le voit bien dans l'épître aux Éphésiens. Il va commencer une pensée. Et on dirait que voilà, ça emmène une autre pensée. Ah, il faut que j'écrive cela. Et donc il va partir sur une pensée qui va emmener d'autres et encore d'autres. Et après, il revient à ce qu'il disait initialement. Donc en fait, verset 1, verset 7 vont ensemble. Et entre ces deux, nous avons verset 2 jusqu'au verset 6 qui sont une parenthèse et un peu une explication de ce que Paul voulait dire par l'évangile de Dieu. Parce qu'il termine le verset 1 en disant, oui, il a été appelé pour annoncer quoi ? Ben, l'évangile de Dieu. Et tout de suite, nous voyons que un caractéristique d'un saint, c'est annoncer l'évangile de Dieu. Mais après, c'est comme Paul pouvait penser déjà à quelqu'un qui dirait bah, « évangile de Dieu, mais c'est quoi exactement ?» Et c'est pour ça qu'il prend quelques versets pour bien expliquer ce qu'est l'évangile de Dieu. Et comme Paul a eu cette rencontre quand même assez radicale avec Dieu sur la route de Damas, Paul savait très bien de quoi il parlait, et Paul prenait un grand plaisir à expliquer à chaque fois qu'il pouvait quel était l'évangile. Et nous le savons. Et il dit, moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Oui, je ne sers pas les hommes, je ne sers pas moi-même, je ne sers pas dans ce sens en premier telle ou telle église, mais je sers Jésus-Christ. J'étais appelé à être apôtre. Et cette idée d'appel va revenir plusieurs fois dans ce passage, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et on voit dans ce verset 1, ben voilà, les caractéristiques d'un saint. Les hommes vont dire, un saint, c'est quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. D'autres vont dire, ben, c'est quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui va répondre à tout un ensemble de critères. Mais Paul, ici, tout simplement, il dit, un saint, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Mais il faut se poser la question, comment pouvons-nous annoncer l'évangile si nous n'avons pas été transformés par cet évangile. Et Paul dit, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, c'est Dieu qui l'avait appelé, c'est Dieu qui l'avait totalement transformé. Et puis, comme j'ai dit, verset 2 jusqu'au verset 6, Paul va expliquer ce qu'il entend par évangile, cette bonne nouvelle. Vous savez, le mot évangile, c'est la transcription en français de ce mot grec, evangelios, evangelion. Donc, la bonne nouvelle. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour que la chose soit claire, Paul va expliquer cet évangile. Et prenons quelques instants pour voir ces quelques versets, du verset 2 jusqu'au verset 6, parce que c'est quelque chose de très important. Parce que sans cet évangile, nous ne pouvons pas parler de sainteté. Nous ne pouvons pas parler de saint. Alors, verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et en lisant ce verset 2, je peux dire que je suis tellement encouragé. Parce que certains vont dire, le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est Dieu qui traite avec un certain groupe. L'Ancien Testament, c'est la loi. C'est un peu un Dieu en colère, c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui est très dur. Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est toutes ces choses. Et Paul dit non, 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 non. Dieu avait déjà annoncé cette bonne nouvelle d'une délivrance et d'un salut dans l'Ancien Testament. Il dit, il a annoncé à travers ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et Jésus lui-même, Luc chapitre 24, dit à ses deux disciples sur la route d'Emmaüs, ben, toute l'écriture, la loi, Moïse, les prophètes, ben, parlent de moi. Il leur a expliqué dans toutes les écritures ce qu'ils devaient souffrir, ce qui allait se passer. Et si vous êtes là le mardi soir, nous sommes en train de voir justement les prophètes mineurs, donc on met un peu l'accent là-dessus. Mais Paul explique ici que le salut, cette bonne nouvelle de pouvoir être sauvé de ses péchés, de ne plus être sous la condamnation de Dieu, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas apparu du jour au lendemain. Non, c'était quelque chose annoncé bien avant. Et Paul va dire aux Éphésiens, c'est quelque chose que Dieu a préparé même avant la fondation du monde. Et nous le savons. Et Paul voulait transmettre cela aux chrétiens de Rome, Il voulait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le salut par Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, c'est annoncé depuis le début, ce qui a été annoncé par Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Et puis verset 3, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Et ici, dans ce verset 3 et 4, Paul explique que non seulement Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament ce qui concerne Jésus-Christ et ce qu'il allait accomplir, mais que Dieu est aussi assez puissant pour accomplir ses promesses. Vous savez, vous et moi, nous faisons des promesses. Si vous êtes parents, vous faites parfois des promesses à vos enfants, on va faire ceci ou cela, oui, on va aller dans tel ou tel endroit. Et malgré votre bonne volonté, malgré tous vos efforts, même en tant que parent, on n'arrive pas à faire tout ce que on promet. C'est pas un manque de volonté, c'est pas qu'on a délibérément menti ou donné de faux espoirs, mais on peut pas pour différentes raisons. Et Dieu, quand il fait une promesse, comme il est le Tout-Puissant, nous savons qu'il peut tout accomplir. Et quand Dieu a promis que son fils viendrait et que ce serait un fils de David, c'est-à-dire dans la lignée de David, les Babyloniens, les Assyriens, ont failli exterminer la lignée de David. Mais Dieu a préservé. Et alors que les hommes auraient pu penser que c'est impossible, Dieu a dit « Non, je vais le faire ». Et selon la chair, c'est-à-dire Jésus-Christ est réellement né. Sa naissance était miraculeuse dans ce sens qu'il est né d'une vierge, mais à part ça, sa naissance était totalement comme une autre. Il est né selon la chair, il est né réellement, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, et à quel moment? C'était lors de son baptême. Vous vous souvenez? Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il y a eu cette voix entendue du ciel, « Voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui a, selon d'autres traductions, toute mon approbation. » Nous entendons la même chose sur le mont de Transfiguration. Jésus, il prend trois de ses disciples, là, il leur montre sa gloire. Il y a cette même voix qui est là, la voix de Dieu, qui donne son approbation. Donc, déclaré, fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, c'est le Saint-Esprit qui est là dans la forme d'une colombe lors du baptême de Jésus-Christ. Et puis, la chose tellement étonnante, j'espère qu'on ne se lasse jamais de l'entendre, par sa résurrection d'entre les morts. Et en tant que chrétien, je me demande si la résurrection devient quelque chose de banal pour nous. Nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez ce verset sur le mur, sur le côté, qui souffrirait, qui ressusciterait le troisième jour. Nous savons que la résurrection a eu lieu. Jésus-Christ est revenu d'entre les morts pour accomplir notre salut. Mais on le sait tellement bien, on l'a entendu tellement de fois que ça peut devenir, du moins dans notre vie, quelque chose de banal. Mais si on s'arrête quelques instants et on réfléchit, la résurrection, Jésus-Christ est réellement mort. Et c'est pas évanoui. C'était pas autre chose qu'une mort physique. Et Jésus-Christ est revenu de cela. La résurrection. Et par cette résurrection, Dieu met son sceau d'approbation sur l'œuvre de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas revenu d'entre les morts, il n'aurait jamais pu accomplir notre salut. Tant de dirigeants tous les dirigeants des religions sont morts. Certains sont morts en tant que martyrs, mais d'autres sont morts de mort naturelle. Mais aucun de ces dirigeants n'est revenu d'entre les morts, n'est revenu à la vie. Jésus-Christ, lui, il est mort sur la croix et il fallait qu'il meure. Mais aussi, il est revenu à la vie. Et il fallait que ça se passe ainsi. Un, parce que ça avait été prédit dans l'Ancien Testament, mais aussi pour montrer que c'est la puissance de Dieu. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul y pèse ses mots ici. Ce que Paul écrit, il ne l'écrit pas au hasard. Si il parle ici de Seigneur, ben c'est parce que Dieu, par Jésus-Christ, avait le contrôle sur sa vie. Et ici, Seigneur, souvenons-nous, les gens auxquels Paul écrit, ben il écrit aux Romains, donc à Rome, c'est là où se trouvait l'empereur, c'est là où se trouvait, on va dire, la puissance, tous les princes, tous les dirigeants. Et Paul dit, c'est vrai, il y a des dirigeants humains qui sont là, qui ont le contrôle, qui ont l'autorité sur notre vie quelque part, mais en même temps, en tant que chrétiens, nous avons une autorité supérieure, encore au-dessus, c'est Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi comme notre sauveur personnel, Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'on le veuille ou pas. La question c'est, est-ce que nous lui résistons ou est-ce que nous nous soumettons à ce que lui il dit? Et la lutte est là, et Paul le savait pour ses Romains, ces chrétiens de Rome au premier siècle, il y avait une lutte. Rome leur demandait de faire une chose, leur propre cœur leur demandait de faire quelque chose. Mais il fallait se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et ici, Paul dit Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui a le contrôle, l'autorité, celui qui peut me dire ce que je dois faire et celui que je dois obéir. Et de se poser la question, si je suis chrétien, si j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel à un moment donné, est-ce que je laisse Dieu me dire ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que je suis soumis à sa parole et à sa volonté? Ou est-ce que je suis plutôt résistant? Si je suis résistant, je ne montre pas que je suis un saint. Si je me soumets, si j'obéis à la volonté et à la parole de Dieu, là je manifeste que je suis un saint devant Dieu. Et puis verset 5, Paul continue par lui, donc par Jésus-Christ, ce grand sauveur, ce Seigneur, celui qui a le contrôle, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et ici, nous voyons, par lui, nous avons reçu la grâce, et tout de suite, on peut penser au salut. On dit, oui, nous recevons la grâce. Et ça, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ce que Paul veut dire ici. Il dit, cette grâce que nous avons reçue, c'est, dans ce contexte, c'est pas la grâce au salut, mais c'est la grâce et la possibilité de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Si vous voyez le verset, Paul dit, Dieu nous a sauvés, dans le but d'annoncer son nom aux païens, c'est-à-dire à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il faut considérer le témoignage, l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ comme une grâce. Et à chaque fois que je pense à ça, je pense aux chrétiens du premier siècle qui, eux, lorsqu'ils étaient persécutés, ils étaient emmenés devant les autorités, ils étaient battus. Louer Dieu et remercier Dieu d'être trouvés dignes de souffrir pour Christ, parce que ça leur apportait une occasion de témoigner. Imaginez-vous cet esprit, de remercier, de louer Dieu, de souffrir pour lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est parce que Dieu l'a fait dans la vie de ces personnes, et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Bien sûr, nous ne souffrons pas au point des chrétiens du premier siècle, non. Mais parfois on se moque de nous. Parfois on dit des choses qui ne sont pas très gentilles à notre sujet. Parfois on passe à côté de quelque chose parce qu'on est chrétien. Et à ce moment-là, la tentation est présente pour diminuer notre témoignage, pour être accepté. Mais ici, Paul dit, nous avons reçu cette grâce, ce privilège, faveur imméritée de pouvoir annoncer l'évangile. Dieu aurait pu utiliser les anges pour annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle. Il aurait pu. Dieu, il est assez grand pour avoir confié aux anges le travail d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Dieu aurait pu écrire ça d'une façon tellement claire pour que les hommes le lisent et acceptent sa parole. Dieu aurait pu se servir d'autres choses, encore dans ce sens plus magnifique, plus grande, peut-être même plus efficace, pour annoncer son salut. Mais il ne l'a pas fait. Non, Dieu a fait un choix qui semble tellement ridicule et illogique aux hommes. Il appelle les chrétiens à témoigner pour lui. Et il faut considérer le témoignage, l'évangélisation, cette annonce de la bonne nouvelle comme une grâce, c'est-à-dire faveur imméritée. Cette faveur imméritée, on l'associe tellement souvent au salut que peut-être on réserve exclusivement pour cela. Mais cette idée de grâce, faveur imméritée, on peut l'associer aussi au témoignage. Est-ce que nous méritons de témoigner pour Christ? Non, en nous-mêmes, non. Si nous témoignons et si nous avons cette possibilité, c'est parce que Dieu nous a choisis et nous a rendus capables de le faire. Nous avons reçu cette grâce, et puis il parle d'apostolat, c'est-à-dire Dieu confie une mission précise. Et cette mission, c'est l'annonce de ce salut en Jésus-Christ. Et il dit d'emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Puis verset 6, il termine cette petite aparté en disant « Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Et à travers ce petit verset, Paul explique quelque chose qui était très important au premier siècle et qui est tout autant important aujourd'hui. C'est que en tant que chrétien, si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, nous vivons dans un monde de gens inconvertis. Nous sommes dans ce monde et il ne s'agit pas d'être tout simplement ensemble en tant que chrétien sans aucun contact avec le monde extérieur. Non, il dit « parmi lesquels vous êtes ». Et les chrétiens à Rome étaient au centre de la puissance païenne de l'époque. À Rome, il y avait tant de temples. L'empereur se faisait adorer, lui. Et puis, punissait ceux qui ne l'adoraient pas. Imaginez-vous, adorer un homme, c'est pas possible. Et ces chrétiens à Rome devaient faire face à des pratiques impies, à la méchanceté, au péché. Et peut-être ils auraient voulu s'isoler en disant, on veut rester loin de toutes les influences du monde. On veut se préserver. Et Paul leur dit, vous êtes l'un. Il ne s'agit pas de couper tout contact avec les inconvertis. Sinon, où est notre témoignage? Bien sûr, il faut se préserver. Mais Paul dit, vous êtes parmi eux. Et puis, verset 6, vous l'avez remarqué, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Paul, lui, a été appelé à annoncer la parole. Et puis, verset 6, Dieu a aussi appelé ces chrétiens de Rome. Et Paul dit, voilà l'évangile. Cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Dieu appelle les gens à lui et après, il leur confie une mission, celle d'annoncer cette bonne nouvelle autour d'eux. Et Paul dit, si nous faisons cela, à ce moment-là, nous manifestons que nous sommes saints devant Dieu. La sainteté ne veut pas dire la perfection. Non, mais Dieu nous voit saints à travers Jésus-Christ. Et du coup, Paul met l'accent sur le contexte dans lequel se trouvent les chrétiens de Rome. Et puis, verset 7, il revient à ce qu'il avait dit au verset 1. Donc, permettez-moi de relire le verset 1, et après je sauterai jusqu'au verset 7 pour garder la continuité. Alors, je reprends avec le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul dit, moi j'ai mon ministère, j'ai ce à quoi Dieu m'appelle, et puis j'écris à vous qui sont à Rome, mes frères, ces bien-aimés. Et puis il dit, oui, ils sont bien-aimés de Dieu, puis saints par vocation. Et peut-être si vous avez une autre traduction, ça dit appelés à être saints. Ce mot vocation qui est là a cette idée d'être appelé à quelque chose, à une mission, à un travail. Donc saint par vocation ou appelé à être saint. Et en lisant cela, je me suis dit, voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si nous sommes chrétiens, d'office, nous sommes des saints devant Dieu. Mais qu'est-ce que notre vie reflète? Qu'est-ce que notre vie reflète? Il dit, ils sont bien-aimés, saints, par Dieu. C'est Dieu qui a appelé à cette sainteté. Et de se poser la question, ai-je reçu Jésus-Christ comme mon sauveur? Et si oui, est-ce que je manifeste cela? L'appel est là. Est-ce que je réponds à cet appel? Si j'ai répondu à l'appel au salut, c'est formidable, mais ça ne s'arrête pas là. Non, il faut aller plus loin. Et du coup, Paul dit, premièrement, la sainteté se voit à travers notre témoignage. La sainteté se voit à travers cette annonce de l'évangile, cet évangile qu'il annonce dans les versets 2 jusqu'au verset 6. Et du coup, si aujourd'hui je me dis chrétien, que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et que je ne témoigne pas pour Dieu, alors il y a un problème. Parce que Paul dit, si nous sommes saints, il y a cette annonce, ce témoignage qui est là. Mais dans la suite de verset 7, nous voyons une prière de la part de Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul ici explique, parce que lui aussi était un saint, c'est-à-dire un chrétien, quelqu'un qui avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et dans ce verset, nous avons une prière de la part de Paul à Dieu pour ces chrétiens de Rome. Et c'est une prière que Paul va renouveler dans toutes ses épîtres. Vous prenez chacune des épîtres de Paul et cette formule, à quelque chose près, s'y trouve. Paul prie pour la paix et la grâce de Dieu, qu'elle soit donnée à ces chrétiens auxquels il écrit, que ce soit à Rome, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, même à Timothée et à Tite, il va écrire cela quand il va écrire à Philémon. Et si c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, on retrouve en partie cette formule. Et ici, Paul fait cette prière pour ses chrétiens. Et je suis convaincu que c'est quelque chose de très instructif. Parce que Paul appelle ses chrétiens saints, c'est-à-dire, ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais Paul aussi, il était un saint devant Dieu. Et il prie pour ses frères et sœurs, ses autres saints dans la foi. Et ça doit nous servir d'exemple. C'est-à-dire, si je dis que je suis chrétien, que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et de ce fait, je suis saint, et que je ne prie pas pour mes frères et sœurs, il y a un problème. Et c'est pas simplement de prier pour leurs besoins matériels. Il y a un lieu, une place pour cela, un moment pour prier pour les besoins matériels. Mais Paul ici demande à ce que la grâce et la paix soient données à ces chrétiens de Rome. Des bénédictions spirituelles. Et il est important de souligner les mots que Paul emploie, la grâce. Encore une fois, c'est pas la grâce au salut, parce que ces personnes sont déjà sauvées. Mais cette grâce, lorsque nous voyons ce que Paul écrit, je suis convaincu, il associe cette grâce à ce dont il a déjà parlé, au verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce. La grâce de quoi? La grâce, la faveur imméritée d'annoncer le salut. Donc la grâce, il veut que Dieu continue de déverser cette capacité de pouvoir annoncer le salut aux autres. Et si c'est ce que Paul dit dans ce passage, et j'en suis convaincu, il prie pour que Dieu donne la capacité aux chrétiens de pouvoir annoncer l'évangile. Et cela est confirmé. Verset 16, quand il dit « Je n'ai pas honte d'annoncer cela. » Moi, je n'en ai pas honte. Et il prie à Dieu pour ces chrétiens de Rome, ces saints de Rome, pour que eux aussi, Dieu leur accorde cette grâce. Alors, pourquoi est-ce que Paul prierait pour la grâce de Dieu dans la vie de ces chrétiens de Rome? Surtout dans ce domaine du témoignage, de l'évangélisation, de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est parce que ça peut être quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a le « que dira-t-on ?» Il y a peut-être « je ne sais pas exactement ce qu'il faut dire », j'ai pas les paroles qu'il faut, je n'ai pas assez d'expérience, on se moquera de moi. Et ici, Paul dit, je prie à Dieu pour vous, saints de Rome, pour que Dieu vous donne sa grâce, justement pour pouvoir évangéliser. Et dans notre vie, est-ce que nous prions cela régulièrement les uns pour les autres? Parce que parfois nous sommes timides. Ça se voit pas trop peut-être, mais à la base je suis quelqu'un d'assez timide. Si il y a 10, 15 ans, vous m'auriez dit que je serais là en train de parler régulièrement chaque semaine à un groupe de personnes, que j'aurais la responsabilité d'une église et tout cela, il est bien possible que je ne vous aurais pas cru. Mais malgré notre timidité, malgré notre peur, malgré notre hésitation, Dieu est capable de nous donner sa grâce, cette capacité de pouvoir témoigner pour lui. La grâce de Dieu dans le témoignage, sa puissance pour pouvoir le faire. Et Paul priait cela pour les chrétiens de Rome, ces saints de Rome. Et pour nos frères et sœurs, ici, est-ce que nous le faisons? Est-ce que je manifeste que moi, je suis saint devant Dieu en priant cette prière pour les autres? Et puis, Paul aussi parle de paix. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la paix? Parce que très souvent, la paix manque dans notre vie, n'est-ce pas? Il y a des inquiétudes de tous les côtés. Instabilité politique dans le monde. Instabilité peut-être dans notre famille. Instabilité au niveau du travail, instabilité peut-être dans notre relation avec Dieu. Vous savez, certains chrétiens passent par ce qu'on appelle cette crise de foi. Oh, ils se remettent en question devant Dieu, ils se posent toutes sortes de questions, ils sont troublés par les attaques du diable, ils sont troublés par les choses qu'ils entendent, ils sont troublés par les choses que eux ils font, par ce que d'autres font. Et quelqu'un peut être troublé intérieurement. Et cela affecte le tout. Et Paul, ici, il prie pour que Dieu accorde sa paix à ses chrétiens, à ses saints de Rome. Et aujourd'hui, lorsque j'examine ma vie, est-ce que je prie pour la paix de Dieu dans mes frères et sœurs? Cela implique que je sais par quoi ils passent. C'est-à-dire, je passe du temps avec eux, je suis au courant, et je suis capable de prier pour que Dieu leur donne sa paix. Et ici, Paul ne pouvait pas manquer d'exprimer cela pour ces chrétiens de Rome. Et lorsque nous examinons notre vie, est-ce que nous le faisons? Pour être honnête avec vous, je ne le fais pas autant que je devrais. Je prie pour vous, mais j'ai encore des progrès à faire. Je peux prier plus. Je peux connaître les besoins plus en détail, mieux, pour pouvoir mieux prier. Et si nous sommes honnêtes devant Dieu, nous pouvons tous progresser ici. Mais si nous sommes saints, ce progrès est possible. Et lorsque nous progressons, nous montrons que c'est Dieu qui travaille en nous. C'est pas notre propre sainteté, mais c'est Dieu qui le fait à travers nous. Et il dit, je prie pour que ces choses vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel, la grâce de Dieu, la paix dans notre vie. Et puis, nous arrivons au verset 8. Et je ne l'ai pas lu tout à l'heure délibérément. Parce que Paul, dans ses 7 premiers versets, il explique sa pensée envers Dieu pour ces chrétiens de Rome. Et puis, verset 8, Paul dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Paul dit, « Oui, je prie à Dieu qu'il vous accorde ces choses, mais quand je pense à vous, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je remercie Dieu pour vous tous. » Et cela retient mon attention à chaque fois. Paul le dit ici aux chrétiens de Rome. Paul va le dire aussi à propos des chrétiens de Corinthe. Nous l'avons vu il y a quelque temps. Et c'est étonnant parce que est-ce que les chrétiens de Rome, est-ce que les chrétiens de Corinthe étaient parfaits? Loin de là. Est-ce qu'ils avaient des problèmes? Oui. On pense surtout à l'église de Corinthe, les disputes, l'orgueil. Ils permettaient le péché au milieu d'eux, on se dit, mais c'est pas possible. Mais Paul dit, je rends grâce à Dieu pour vous tous. Quelle affirmation extraordinaire. Et de se poser la question, puis-je affirmer la même chose? Puis-je remercier Dieu pour tous mes frères et sœurs? Et sinon, pourquoi? Parce que quelqu'un m'embête? Parce que quelqu'un ne fait pas ce que moi je pense qu'il devrait faire? Parce que quelqu'un a dit telle ou telle parole? Parce que quelqu'un n'a pas dit telle ou telle chose? Parce que quelqu'un n'a pas fait telle ou telle chose? Et Paul ici, sans avoir jamais vu les chrétiens de Rome. À ce moment, quand Paul écrit cet épître, il n'est pas encore allé à Rome. Il y ira un jour, mais pour le moment, il n'y est pas encore allé. Et il dit, je loue Dieu pour vous, tous. Les chrétiens de Rome n'étaient pas parfaits. Ils avaient leurs problèmes, ils avaient des choses qui devaient être corrigées. Et les chrétiens de Vernon, eux aussi ne sont pas parfaits. J'espère que cela ne vous choque pas. Hein? Les chrétiens de Vernon, ont des progrès à faire. Les chrétiens de Vernon ont des choses qu'ils doivent régler. Et pour être encore plus précis, moi je ne suis pas parfait. Et chacun de nous peut dire cela. Moi j'ai des progrès à faire. Et pourtant, est-ce que je remercie Dieu pour tous les frères et sœurs que j'ai ici dans l'église? Et si je ne le fais pas, pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Parce que je suis l'exemple de Paul qui pouvait louer Dieu et remercier Dieu pour tous ses frères et sœurs à Rome. Et puis, fin de verset 8, il dit explicitement pourquoi il remercie et il loue Dieu. Il dit « De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Comme nous disons ce diphtongue « tous les chemins mènent à Rome ». Rome, c'était le centre, un peu la capitale du monde à cette époque. Tout venait et partait de Rome. Et partout dans l'Empire romain, on entendait parler de la foi de ces chrétiens de Rome. C'est saint, saint dans le sens biblique, c'est-à-dire sauvé par grâce. Et Paul dit, partout, dans le monde entier, le monde connu à l'époque, quand on parlait de Rome, on disait, ah oui, là il y a des chrétiens. Là où il y a des gens qui manifestent la foi, qui montrent qu'ils font confiance en Dieu, qui témoignent, qui s'aiment, qui travaillent pour Dieu, là, ces gens-là sont à Rome. Et Paul dit, je loue le Seigneur pour cela. Et encore une fois, Paul n'avait jamais visité Rome. C'était des choses qu'on lui disait. Alors, combien plus nous, ici, à Vernon, bien sûr, nous venons de coins différents, mais nous qui sommes rassemblés aujourd'hui, ici, qui nous connaissons, nous nous voyons, combien plus nous devrions pouvoir louer Dieu pour notre foi. Je devrais être capable de louer Dieu pour mes frères et sœurs et leur foi. Et puis les autres devraient pouvoir louer Dieu pour la foi qui se manifeste dans ma vie, pour ma confiance en Dieu. S'il n'y a rien d'autre pour lequel nous pouvons louer Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est au moins si cette personne est sauvée, c'est ce salut en Jésus-Christ. Peut-être la personne ne fait pas tout exactement comme nous ferions. Peut-être la personne a des choses à régler. Peut-être la personne devrait faire ceci ou cela, ou devrait arrêter de faire ceci ou cela. Mais cela ne devrait pas empêcher que moi, je prie pour tous mes frères et sœurs que je connais dans mon entourage. Et cela doit me stimuler, en tant que chrétien, de pouvoir grandir dans ma foi pour que les autres aient des sujets de louange envers Dieu. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu. C'est la première chose que je fais. Je demande à ce que Dieu vous donne sa paix et sa grâce, mais en même temps, je loue Dieu pour vous. Et de se poser la question aujourd'hui, déjà, suis-je sauvé? Ai-je accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel par la foi? Est-ce que j'ai eu cette grâce de la part de Dieu? Si c'est le cas, est-ce que je suis en train de manifester cela à travers le témoignage? Est-ce que je suis en train de prier pour la grâce et la paix dans la vie de mes frères et sœurs? Et est-ce que je suis en train de louer Dieu pour mes frères et sœurs? Tous, pas simplement ceux que j'apprécie. Vous savez, il y a dans l'Église des gens qu'on apprécie plus que d'autres. C'est normal. On a plus d'affinités, on est plus proches, peut-être qu'on passe plus de temps ensemble. Mais ça ne devrait pas empêcher à ce qu'on prie pour tout le monde. Personne ne devrait être exempt de nos prières. Et si nous voyons que nous n'arrivons pas à prier pour quelqu'un, la prière qu'il faut faire, c'est « Dieu, change mon cœur ». Dieu, montre-moi pourquoi je peux prier pour cette personne. Montre-moi les besoins que cette personne a. Et si c'est un frère ou une sœur en Christ, ben Dieu, je peux te louer au moins que cette personne est sauvée. Et peut-être que cette personne traverse des choses dont je ne suis pas du tout au courant. Et à ce moment-là, Dieu, je vais te louer pour cette personne. Je vais l'apporter à ton trône de la grâce. Et alors que nous progressons, ben, ça va être vu. Et on va pouvoir en parler. Et l'impact ira en grandissant. Alors, si on s'examine aujourd'hui, si on s'examine demain, et si d'ici la fin de l'année, là on a 2 mois devant nous, si d'ici la fin de l'année, est-ce que nous allons pouvoir dire, oui, j'ai grandi, oui, je manifeste de plus en plus que je suis un saint devant Dieu. Pas un saint parce que je suis parfait, je ne le suis pas, je fais des erreurs, mais saint devant Dieu. Et je manifeste cette sainteté qui vient de Dieu à travers ma vie de tous les jours. C'est pas juste le dimanche matin, quand tout va bien, quand je n'ai aucun souci, mais tous les jours, quand je veux baisser les bras, quand tout semble aller de travers. Paul dit, là je me tourne vers Dieu. Et je prie pour les autres, parce que Dieu les bénisse. Je remercie Dieu pour les autres. Je prie pour le témoignage. Je témoigne moi-même. Et à ce moment-là, Dieu va pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Alors, où est-ce que vous en êtes? Chacun doit répondre devant Dieu. Êtes-vous un saint? Moi, je le suis. Vous devez répondre pour vous. Maintenant, est-ce que on le manifeste? C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il veut voir dans chacun d'entre nous. Que nous prenions cette décision de manifester de plus en plus cette sainteté que Dieu a mis en nous. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ce grand salut en Jésus-Christ, que tu nous donnes la possibilité de l'accepter par la foi. Nous savons que cela ne vient pas de nous, cela vient de toi. Et nous plaçons notre foi, confiance en toi, et à ce moment-là, tu nous sauves, tu nous transformes complètement. Seigneur, merci pour cette parole, pour cet exemple de l'apôtre Paul qui nous est donné dans ces versets. Et, Seigneur, nous demandons ton aide. Nous sommes insuffisants, nous sommes faibles. Nous n'avons pas toutes les ressources qu'il faut, mais tu peux les pourvoir, Seigneur. Rends-nous capables d'imiter cet exemple de Paul. Rends-nous capables de manifester cette sainteté à travers notre vie, Seigneur. Donne-nous d'être une bénédiction pour nos frères et sœurs. Donne-nous de manifester cette foi, cette grâce en nous. Et Seigneur, que nous puissions toujours revenir vers toi, vers ta parole, pour la force, la sagesse qu'il faut, et que tu sois exalté et glorifié, que cela soit évident aux yeux de tous, et que tu reçois tout cet honneur et toute cette gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.